Au micro, Idrissa Seydoudia pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, bonjour. Ici aux États-Unis, dans une décision historique, le candidat démocrate à la Maison-Blanche, Joe Biden, a choisi la sénatrice Kamala Harris pour affronter avec lui le président Donald Trump le 3 novembre. Madame Harris, 55 ans, première femme noire colistière de l'histoire américaine dont les parents sont nés en Jamaïque et en Inde, pourrait ainsi devenir la première vice-présidente des États-Unis en cas de victoire. Monsieur Biden, l'ancien vice-président de Barack Obama, a qualifié l'étoile montante du Parti démocrate de combattante dévouée à la défense courageuse des classes populaires et de l'un des plus grands serviteurs de l'État. Après deux mandats de procureur à San Francisco, Kamala Harris avait été élue deux fois procureur général de Californie, devenant alors la première femme, mais aussi la première personne noire à diriger les services judiciaires de l'État le plus peuplé du pays. Elle est aussi la première femme noire à avoir été élue sénatrice de Californie. Kamala Harris s'était présentée à la primaire démocrate avant de jeter l'éponge et d'apporter son soutien à M. Biden pour l'élection du 3 novembre. Les deux candidats feront leur première apparition publique ce mercredi à Wilmington, dans le Delaware, État dont Joe Biden a longtemps été sénateur. Joe Biden peut rassembler les Américains, car il a passé sa vie à se battre pour nous, et quand il sera président, il construira une Amérique à la hauteur de nos idéaux, a tweeté Madame Harris. Dans une Amérique aux prises avec son histoire d'injustice raciale, Kamala Harris s'est imposée comme une ardente militante pour une réforme de la police et pour la justice sociale. Le président républicain Donald Trump a très vite critiqué ce choix. Joe le mou et Kamala l'imposture, fait pour être ensemble, mauvais pour l'Amérique. Barack Obama s'est en revanche réjoui de la décision de M. Biden en plein dans le mille. À noter qu'à 78 ans, en janvier, Joe Biden serait le plus vieux président américain à prendre ses fonctions s'il remportait l'élection. Il a laissé entendre qu'il ne ferait qu'un mandat. En bref, le reste de l'actualité. Au Mali, des milliers de personnes se sont rassemblées à Bamako mardi, réclamant la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta, accusé par l'opposition d'avoir mis en place un système oligarchique et plutocratique. Nous y reviendrons avec Kassim Traoré. En Guinée, le président Alpha Condé a annoncé mardi à la télévision nationale que l'élection présidentielle très attendue aurait lieu le 18 octobre. Le président Condé, âgé de 82 ans, a fait passer en mars une réforme constitutionnelle qui était, selon l'opposition, un subterfuge pour lui permettre de se présenter une troisième fois à la présidentielle. En Côte d'Ivoire, l'ex-première dame Simone Gbagbo a demandé mardi au président Alassane Ouattara d'amnistier son époux Laurent et de lui délivrer un passeport pour faciliter la réconciliation dans son pays à trois mois de la présidentielle. L'ex-président Laurent Gbagbo, en liberté conditionnelle à Bruxelles après son acquittement par la CPI, a introduit une demande de passeport pour rentrer en Côte d'Ivoire. Au Burkina Faso, Souaibou Cissé, le grand imam de Djibo, importante ville du nord en proie à des attaques djihadistes de plus en plus récurrentes, a été enlevé par des individus armés non identifiés mardi. Selon une source sécuritaire à l'AFP, le car dans lequel il regagnait Djibo après un séjour à Ouagadougou a été intercepté. Réaction prudente de l'OMS à l'annonce mardi par Moscou de la mise au point d'un vaccin contre le COVID-19. Nous y reviendrons dans un instant. Pour sa part, le président Trump a annoncé mardi que les États-Unis ont conclu un accord avec la biotech américaine Moderna pour obtenir 100 millions de doses du potentiel vaccin du laboratoire. La suite de nos informations. En Côte d'Ivoire, de jeunes opposants ont appelé à des manifestations demain jeudi contre la candidature en troisième mandat du président Alassane Ouattara. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Ces jeunes opposants dénoncent ce qu'ils qualifient de forfaiture de trop. Selon leur porte-parole Nestor Daï, président de Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, une coalition proche du FPI de l'ancien président Laurent Gbagbo. Il a ajouté que cette manifestation vient en appui à un mot d'ordre de protestation de la société civile, aussi prévu demain jeudi sur l'ensemble du territoire. Outre cette coalition, le PDCI, parti d'Henri Konabédier, et le mouvement Génération et Peuple solidaire proche de Guillaume Soro, composent cette plateforme de la jeunesse de l'opposition. Monsieur Alassane Ouattara, 78 ans, élu en 2010 puis réélu en 2015, a annoncé qu'il va se représenter pour un troisième mandat après avoir dit qu'il ne sera pas candidat. Il a invoqué un cas de force majeure, la mort du candidat du RHDP Amadougon Koulibaly. L'opposition lui conteste ce droit. L'ancien président Henri Konabédier a déclaré qu'une candidature de M. Ouattara serait illégale. Âgé de 86 ans, M. Bédier est officiellement le porte-drapeau du PDCI-RDA à la présidentielle du 31 octobre.
Lancement à Lubumbashi, en République démocratique du Congo, des pourparlers entre des experts congolais et zambiens autour d'un conflit frontalier qui oppose leurs deux pays depuis mars. Le point avec Abdourahman Dia.
Le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiabula, se dit convaincu que les deux délégations ne vont pas manquer de privilégier les intérêts supérieurs des populations qui partagent la même frontière. Mi-mars, des combats avaient éclaté entre les armées congolaises et zambiennes, faisant un mort de chaque côté, lorsque des troupes zambiennes avaient occupé deux villages de la province congolaise du Tanganyika, dans le sud-est de la RDC. Les troupes zambiennes n'ont jamais quitté la RDC, mais s'étaient juste éloignées de 3 km de la frontière, a déclaré un responsable provincial du Haut-Katanga. La semaine dernière, le porte-parole du gouvernement congolais avait annoncé le retrait des troupes zambiennes après une médiation de la communauté des États d'Afrique australe, la SADC. Un traité signé en 1989 par la RDC et la Zambie avait résolu ce litige hérité de la colonisation par la délimitation des frontières sur environ 200 km entre les lacs Mwero et Tanganyika. Mais des incidents à la frontière entre les deux armées ont eu lieu au moins 3 fois depuis 1996.
La Russie a revendiqué hier avoir développé le premier vaccin efficace contre le coronavirus, mais cette annonce, jugée au mieux prématurée dans le reste du monde, a suscité des doutes et des réserves. Nanette Talani fait le point.
Pour la première fois au monde, un vaccin contre le nouveau coronavirus a été enregistré, a déclaré le président russe Vladimir Poutine. Le vaccin nommé Sputnik V donnerait une immunité durable, selon le ministère russe de la Santé. Le début de la production industrielle est prévu en septembre. L'OMS a aussitôt appelé à la prudence, rappelant que la préqualification et l'homologation d'un vaccin passent par des procédures rigoureuses. Le ministère allemand de la Santé a émis des doutes sur la qualité, l'efficacité et la sécurité du Sputnik V. Berlin rappelle qu'au sein de l'Union européenne, la sécurité des patients est la première des priorités. L'expert François Balloux de l'Université Collège de Londres parle de décisions irresponsables et imprudentes de Moscou. Pour lui, une vaccination de masse avec un vaccin mal testé n'est pas éthique. Pour la virologue française Marie-Paul Kieny, ancienne directrice générale adjointe à l'OMS, cette déclaration russe est prématurée puisqu'on ne sait pas encore si ce vaccin ou un autre va protéger contre le COVID-19 ni quelle sera la durée de l'immunité. Des tests à grande échelle d'au moins 26 autres éventuels vaccins sont en cours dans plusieurs pays.
La Minute Éco, Nathalie Barge.
Equity Group Holdings PLC a annoncé l'acquisition de 66,53% d'actions de la Banque commerciale du Congo pour 95 millions de dollars. Le groupe possède désormais 2 filiales en RDC après avoir acquis précédemment la banque allemande ProCredit Bank Congo. Le PDG de la holding, James Mwangi, a déclaré que la fusion de ces deux entités contribuera à plus de 20% du bilan total du groupe. Au Burkina Faso, la Direction générale des impôts a initié cette semaine une formation d'agents du ministère de l'économie sur la facture normalisée dans le cadre de la lutte contre la fraude fiscale. La facture normalisée est entrée en vigueur dans le pays en 2017 pour les entreprises relevant du régime du réel normal d'imposition. La DGI a entrepris de la vulgariser à travers des sessions de sensibilisation. Au Sénégal, la police a démantelé un réseau de trafic de faux passeports à Dakar. La sûreté urbaine est intervenue lorsqu'une dame s'est présentée à la direction des passeports pour dire que son frère en Italie lui avait demandé d'aller récupérer son passeport qu'un dénommé coach lui aurait établi contre la somme de 300 000 francs CFA. Deux hommes ont été interpellés à Parcelles, Assény et Dieupel.
Les sports à présent, Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous. La Fédération nigériane de football a déclaré qu'elle va verser 2 millions de dollars aux clubs et ligues pour amortir les effets du coronavirus. Ce fonds de secours est composé d'$1 million provenant du soutien de la FIFA pour le redémarrage de la saison de football, $500 000 de subvention de la FIFA pour le football féminin, $300 000 de soutien de la CAF aux associations membres et $200 000 de sponsors de la Fédération nigériane. Les ligues bénéficiaires sont les trois premières divisions masculines ainsi que la première division féminine. Le début de la nouvelle saison est provisoirement fixé à octobre. Et puis, l'attaquant malawite Tabitha Shawinga a été désignée joueuse de l'année de la Ligue féminine chinoise. Après une saison 2019-2020 exceptionnelle à Jiangsu Suning, la joueuse de 24 ans a marqué 12 buts en 14 matchs de championnat, totalisant 38 réalisations dans toutes les compétitions. L'année dernière, pour sa première saison en Chine, elle a inscrit 31 buts toutes compétitions confondues, dont 17 en championnat après son arrivée à Jiangsu, en provenance de la Suède. En Angleterre, une levée de fonds a été lancée pour ériger une statue de Jack Leslie, un milieu de terrain qui aurait dû devenir en 1925 le premier joueur noir international anglais de football, avant que les sélectionneurs ne réalisent qu'il était métis. Milieu offensif, Leslie jouait pour Plymouth Argyle et était le seul joueur de couleur professionnel de son époque. Né d'une mère anglaise et d'un père jamaïcain, il avait été sélectionné pour un match contre l'Irlande, mais la convocation a été retirée par la suite à cause de la couleur de sa peau. Il a fallu attendre 1978 pour que Vive Henderson devienne le premier footballeur noir à intégrer la sélection anglaise. Nous ne voulons pas seulement ériger une statue en l'honneur de Jack Leslie, mais aussi utiliser son histoire pour célébrer la diversité et combattre le racisme, peut-on lire sur le site web de la Jack Leslie Campaign, qui espère réunir 110 000 euros environ. À trois matchs d'un sacre européen inédit, le PSG débute son Final 8 en quart contre l'Atalanta Bergame ce soir, à 15h, temps universel à Lisbonne, avec l'envie d'écrire l'histoire malgré plusieurs absents de marque. Marco Verratti est a priori forfait. Kylian Mbappé garde l'espoir de figurer sur le banc des remplaçants. Même l'entraîneur Thomas Tuchel s'est blessé à un pied. Le défi est donc énorme pour le club du Sénégalais Idrissa Gueye et du Camerounais Éric-Maxime Choupo-Moting. Une qualification des Parisiens leur permettra de fêter en toute sérénité les 50 ans jour pour jour après la création officiel du Paris Saint-Germain le 12 août 1970.
Écoutez VOA Afrique, désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 555 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique, dans tout le continent africain, sur la chaîne 555 de Canal+.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie Idrissa Senoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Mali, le mouvement du 5 juin, Rassemblement des Forces Patriotiques, le M5-RFP, a organisé son quatrième rassemblement ce mardi à Bamako. Les manifestants demandent toujours le départ du président Ibrahim Boubacar Keïta et de son régime. Leurs différents leaders ont pris la parole pour dénoncer ce qu'ils ont appelé la mauvaise gouvernance, la corruption, la situation scolaire et le chômage. Ils ont aussi demandé la libération de Soumaïla Cissé. Le point avec Kassim Traoré.
Malgré la pluie sur Bamako, les partisans du M5-RFP se sont de nouveau rassemblés pour exiger le départ du président Ibrahim Boubacar Keïta et son régime. Les femmes étaient en tête.
C'est la CEDEAO qui sait qu'on a triqué les élections, mais la CEDEAO a dit que les élections sont bien déroulées. Mais si Ibeka travaille, il n'y a pas de problème. Même si tu voles les élections, si tu travailles, il n'y a pas de problème. Mais on a volé les élections, ça n'a pas marché. L'Assemblée, on a volé. Troisième tour, on a fait ça à l'Assemblée Mali. Jamais vu au monde entier. Donc vraiment, il n'a pas parti, il n'a pas été le seul, la solution du On a faim, on a soif, nos enfants sont malades, nos enfants ne vont pas à l'école, on ne trouve pas à manger, on n'a pas l'eau, on n'a pas d'électricité.
Pour planter le décor de ces rassemblements sur la place de l'indépendance, c'est Choguel Kokala Maïga qui a donné le ton.
Je voudrais que nous ayons une pensée pieuse pour nos camarades qui sont tombés le 10, le 11, le 12 juillet 2020. Ils sont tombés pour que le peuple malien recouvre sa dignité, pour que le peuple malien recouvre sa véritable indépendance, pour que le peuple malien recouvre son intégrité territoriale, pour que le peuple malien restaure une véritable démocratie.
Le mot d'ordre du rassemblement a été rendu public par le professeur Ibrahima Ikassa Maïga.
Pour répondre à l'entêtement de M. Ibrahim Boubacar Keïta, nous avons décidé de tenir ce mardi 11 août 2020 de grands rassemblement populaire à Bamako sur l'ensemble du territoire national et dans la diaspora, et ce de façon continue jusqu'à l'atteinte de l'objectif recherché par le peuple RFP, la démission de M. Ibrahim Boubacar Keïta.
Pour la première fois, l'ancien Premier ministre Modibo Sidibé prend la parole publiquement lors d'un meeting du M5-RFP.
Le temps est venu qu'on cesse de dire que ce qui est constitutionnel, qui est démocratique, c'est ça qu'il faut laisser et qu'on ne donne pas à ceux qui exercent le pouvoir d'être correct, de respecter leur peuple, de conduire une bonne gouvernance, de faire en sorte que ce que le peuple demande soit. C'est ce deuxième temps de la démocratie et de la gouvernance que vous, jeunes Maliens, avant-garde de cela, vous devez porter dans toute la sous-région et surtout le continent africain pour que plus jamais, que personne ne puisse s'aviser de ne pas respecter notre continent, de ne pas respecter notre pays, de ne pas respecter notre peuple.
L'imam Mahmoud Diko a demandé au président Ibeka d'écouter son peuple.
Et puis il n'y a pas de bras de fer entre le peuple et quelqu'un que le peuple a eu. Pour un démocrate comme lui, toi tu fais le contraire. Non, mais c'est certain genre de démocratie ça. Vous êtes président de la République, il y a un problème dans votre pays, mais vous réunissez les forces vives de la nation, vous prenez la décision qui c'est vous. J'entends les rues, je ne sais quoi, et tout le monde s'improvise médiateur. On ne gère pas un pays comme ça, bon Dieu.
Après le meeting, les manifestants ont décidé de ne pas rentrer à la maison. Certains d'entre eux ont passé la nuit sur le boulevard de l'indépendance. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Niger, 48 heures après l'attaque qui a coûté la vie à 7 humanitaires, 6 Français et un Nigérien, ainsi que leur guide nigérien dans la zone touristique de Kouré, à une soixantaine de kilomètres de Niamey, la capitale, les organisations humanitaires présentes dans le pays sont inquiètes. Elles demandent aux autorités plus de sécurité. L'ONG ACTED, pour laquelle travaillaient les victimes de l'attaque, a suspendu ses activités. Les détails avec notre correspondant Abdulrazak Idrissa.
Une soixantaine d'organisations internationales humanitaires représentées au Niger, réunies au sein d'un groupe, a condamné dans les termes les plus forts cette attaque méprisable. Yves Aboumougisha, représentant de World Vision au Niger, en est le porte-parole.
C'est une attaque horrible contre les humanitaires, c'est une attaque contre la dignité humaine, c'est une attaque contre le pays et une attaque contre tous ceux qui se donnent corps et âme pour servir ceux qui sont dans le besoin. Et nous sommes sous le choc que des jeunes qui se sont donnés pour servir les plus vulnérables tombent ainsi et sous les balles des attaques et des assaillants comme ça.
Le groupe des organisations internationales déplore la dégradation de la situation sécuritaire dans le pays et exhorte les autorités nigériennes à garantir davantage un environnement sécurisé pour leur permettre notamment d'assister ceux qui sont dans le besoin.
Ce que nous demandons, c'est qu'il y ait respect du droit international humanitaire, c'est qu'il y ait accès humanitaire. Les gens sont dans le besoin. Il y a beaucoup de communautés qui ont besoin d'assistance. Il faut qu'il y ait respect, qu'il y ait accès humanitaire, qu'on puisse accéder à ces populations qui sont dans le besoin et qu'on puisse leur apporter l'assistance. C'est notre message et cela, c'est aussi notre demande vis-à-vis des autorités, que ce soit au niveau local, au niveau départemental, régional qu'au niveau national, d'assurer plus la sécurité, sécuriser les lieux, sécuriser les communautés et assurer la sécurité des humanitaires.
Au lendemain de l'attaque, le président Issoufou a tenu une réunion extraordinaire du Conseil national de sécurité. Principale décision, l'état d'urgence est élargi à l'ensemble de la région de Tillabéri dans laquelle se trouve la zone où l'attaque s'est déroulée. Alkash Al-Hada, ministre de l'Intérieur.
Il a notamment ainsi été décidé de l'élargissement de l'état d'urgence donc à l'ensemble de la région de Tillabéri. Ensuite, la suspension de l'accès au site de Jira. On va suspendre cet accès-là pour que les investigations qui se déroulent actuellement se poursuivent aussi en toute sérénité. Toutes les forces de défense et de sécurité sont mobilisées afin de retrouver et évidemment remettre aux mains de la justice ces criminels.
Abdullah Razak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique à Niamey au Niger sur le 102.5 FM 24h sur 24.
Au Congo-Brazzaville, les agents des Mucodec, le plus important réseau bancaire du pays, sont en grève pour réclamer l'effectivité et de l'augmentation de leur salaire. Ces agents se disent floués par les directeurs et cadres de leurs banques qui ont en fait été, selon eux, les plus gros bénéficiaires de leurs dernières revendications. Sur place à Brazzaville, les explications de notre correspondant Arsène Séverin.
C'est depuis quelques jours que les perturbations sont constatées dans les prestations des services des Mucodec, tant à Brazzaville qu'à l'intérieur du pays. De nombreux agents refusent de travailler tant que la direction de cet établissement ne va pas ouvrir les négociations avec le personnel. Félicia Wamba, employée en grève.
À ce jour, nous sommes devenus banque, mais seulement les salaires ne suivent pas. Le travail s'est ajouté, mais seulement il y a eu une la convention bancaire ne nous a pas donné ce que nous attendions. D'ailleurs, cette convention a été signée par l'employeur lui-même, sans notre syndicat, particulièrement la CSTC. Je voudrais bien rappeler que la grève était un droit. L'employeur, depuis le 7 août, parce que nous sommes en grève, on n'est pas d'accord, nous nous manifestons. L'employeur a pensé suspendre nos contrats.
D'autres agents des Mucodec de Brazzaville et de Pointe-Noire ajoutent de la voix.
L'employeur avait rassuré qu'au minimum, un agent gagnerait 40 000. Et ça a été criard au finish. Parce qu'il y a eu des augmentations de 1 700, de 8 000. Et tous ceux qui ont bénéficié de ça, ce sont les cadres, ceux qui n'ont rien revendiqué.
Par contre, un directeur pouvait quitter 1 200 000, 1 500 000 à 5 millions. Et ça, on a jugé que c'était pas bon. Donc il fallait une action pour essayer d'arrêter ce genre de discrimination.
Les syndicalistes qui rejettent ce mouvement de grève affirment que leurs doléances ont bel et bien été prises en compte.
Quand on parle de revendications, je ne sais pas de quelles revendications les gens cherchent, parce qu'on nous a augmenté le salaire à peine là. Chacun a constaté à la fin de ce mois-ci, il y a eu une augmentation de salaire.
Pour éviter que le mouvement n'impacte effectivement les caisses Mucodec, la direction a identifié et suspendu 106 agents en grève. Ils ont été remplacés par des intérimaires fournis par une boîte de la place. Ferdinand Pandi est le délégué de la direction des Mucodec.
On parle de grève d'un côté, mais de l'autre, il y a le travail qui se fait. La preuve en est que vous nous avez trouvé là. Et donc, nous voulons rassurer tout le monde que le travail se poursuit.
Les Mucodec constituent le réseau bancaire le plus installé au Congo, avec plus de 360 000 clients. Parmi ces sociétaires, on trouve les fonctionnaires de l'État, mais surtout les petits commerçants et les artisans. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Avec vous, cette semaine dans Washington Forum, le débat sur le troisième mandat, plus que jamais d'actualité. Après des jours d'attente, les Ivoiriens sont finalement édifiés. Le président Alassane Ouattara sera bel et bien candidat à la présidentielle d'octobre. Son homologue guinéen, Alpha Condé, lui, dit avoir pris acte de son investiture à la présidentielle par son parti et pourrait lui aussi se prononcer incessamment. Pourquoi le débat sur le troisième mandat continue-t-il de se poser en Afrique? Qu'est-ce qui explique la longévité au pouvoir? Faut-il se défaire de la limitation des mandats? Rendez-vous jeudi 13 août à 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com.
Ce mardi 11 août, le Tchad a célébré le 60e anniversaire de son accession à l'indépendance. C'était aussi le jour symbolique où le président Idriss Déby Itno a été élevé à la dignité de maréchal du Tchad. La cérémonie s'est déroulée au palais de la démocratie de N'Djamena. Le point avec notre correspondant sur place, André Kotmadjingar.
Plébiscité maréchal du Tchad par les députés pour services rendus à la nation et les nombreuses victoires militaires à l'intérieur et à l'extérieur du pays, le général Idriss Déby Itno a reçu de main du grand maître de l'ordre national ce 11 août 2020 ses attributs régaliens. Âgé de 68 ans, il est le sixième président du Tchad et le tout premier à accéder à cette dignité nationale de maréchal. Il dédie cette distinction à tous ses frères d'armes.
Je considère que cette consécration n'est pas exclusivement celle du général d'armée Idriss Déby Itno que je suis, c'est le sacrifice, le courage des milliers de soldats, des sous-officiers et d'officiers qui sont ainsi distingués.
Docteur Sitak Yobatina Beni, juriste et ancien chercheur à l'École nationale d'administration du Tchad, estime qu'en élevant le chef de l'État au rang du maréchal, les députés ont fait une erreur politique.
Article 112 de la Constitution de la République cite entre autres les attributions de l'Assemblée nationale. Voter les lois, évaluer les politiques publiques, contrôler l'action gouvernementale et assurer l'exécution des lois. Et ajoute, ils peuvent voter des résolutions, mais en fonction de leur règlement intérieur. Vous allez à l'article 121 qui parle de règlement intérieur, cite nommément les affaires pour lesquelles les députés sont compétents. Et donc, il n'appartient pas aux députés d'introniser un chef de l'exécutif, maréchal ou empereur.
Par cette cérémonie, le Tchad rend la dignité que mérite le chef de guerre Idriss Déby Itno par le biais de ses représentants à l'Assemblée nationale, a déclaré à VOA Afrique le député de l'opposition Ousmane Chérif Kamdjan, vice-président du groupe parlementaire Les Démocrates.
Cet homme qui a la destinée de notre pays, il est capable de faire la paix, mais aussi de conduire une guerre salvatrice quand cela est nécessaire. Il est temps que les académies militaires du monde entier se planchent et étudient les faits et gestes et le parcours de ces grands militaires.
Pour Dr Sitak Yombatina Beni, en acceptant cette distinction en plein exercice, le président viole la loi fondamentale et détruit la fête de l'indépendance.
Il est dans un mandat civil où il s'est mis en disponibilité. Mis en disponibilité, ça veut dire quoi? 1. Vous n'avez pas de salaire. 2. Vous n'avez pas droit à un grade. 3. Vous n'avez pas droit à un avancement. Or, le président de la République triche avec les textes, n'est-ce pas, civil? Il triche avec les textes militaires. C'est-à-dire, je mets la Constitution de la République du Tchad, dont il est le garant. Non seulement on s'élève, mais on détruit, n'est-ce pas, le 11 août. Dorénavant, qu'est-ce qu'on veut que les générations tchadiennes célèbrent? L'avènement des maréchals, le tout premier au Tchad?
Vu son parcours militaire, le général Déby mérite mieux que cet hommage national, estime Mohamed Zen Bada, secrétaire général du MPS parti au pouvoir.
Je l'affirme avec force que le fait qu'Idriss Déby devienne maréchal, pour moi, c'est même peu. Mais ce qui s'est fait le 11 août, mais c'est dans l'ordre des choses, il n'est pas maréchal Idriss Déby Itno pour lui. Il est maréchal du Tchad.
Un homme, un panafricaniste, un digne fils, une icône, un guerrier émérite, un grand stratège militaire. Les qualificatifs et superlatifs n'ont pas manqué au président de l'Assemblée nationale. Dans son discours de 20 minutes environ, Haroun Kabadi n'a pas cessé de louer les grands mérites du tout nouveau maréchal. Un mot qu'il a prononcé 17 fois et 15 fois, c'est lui d'Idriss Déby Itno au pouvoir depuis 30 ans. André Kotmadjingar N'Djamena pour VOA Afrique.
Voilà. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, vous étiez en compagnie d'Idrissa Sedudia et de Michel Joseph à la mise en onde. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.